fond de crise pétrolière et gazière historique, on va le dire, on s'est dit que peut-être on pouvait atteindre ces ressources qui jusque-là ne nous intéressaient pas. Mais il ne faut pas croire que ce sont des ressources dont on ignorait l'existence. En fait, on sait qu'il existe du gaz piégé dans les schistes depuis les débuts de l'industrie du pétrole et du gaz. Je dis industrie du pétrole et du gaz parce qu'il y a aussi bien du gaz de schiste que du pétrole de schiste. En France, par exemple, il y a du pétrole dans les schistes du bassin parisien et il y a du gaz, très vraisemblablement, d'une zone qui va, on va dire, de Montélimar jusqu'à Montpellier, qui inclut d'ailleurs le Larzac, les Cévennes. Donc, il y a du pétrole d'un côté et il y a du gaz de l'autre. Et c'est la même structure géologique, c'est-à-dire des couches sédimentaires profondes.
Je suis Guillaume Vermorel, ingénieur de formation et enseignant à l'éducation nationale, et je suis aussi spéléologue en Ardèche. Je suis président du comité spéléo de l'Ardèche, et donc du coup on connaît le sous-sol, enfin on n'en connaît que les 200 ou 250 premiers mètres, c'est-à-dire la partie où on peut descendre humainement. Alors ici on est sur le forage dit historique de Villeneuve-de-Berre, qui a été fait en 1959. C'est un forage fait par le BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minier, et il a permis de remonter 2800 mètres de profondeur jusqu'au socle granitique. Et ça a permis de connaître l'alternance, la superposition de ces couches géologiques. Et grâce à ça, on connaît vraiment bien le sous-sol ardéchois au niveau de Villeneuve-de-Berre. Et c'est une des raisons qui pousse l'entreprise Schubar Energy et son partenaire français GDF Suez à venir forer à Villeneuve-de-Berre, parce qu'ils connaissent bien le sous-sol.
Donc là, on est au milieu, ça s'appelle comment, des paysages comme ça ?
Ça, c'est de la garrigue ardéchoise. On est au milieu de la garrigue, à proximité du village de Villeneuve. Donc on voit des buis, des cades, quelques chênes verts. Ça, c'est le reste du forage, le haut du tubage métallique du forage.
D'accord.
Donc ça descend, il y a un trou qui descend à 2800 mètres de profondeur à la verticale, en dessous de nos pieds.
Et ça, ça avait été fait il y a combien de temps, vous
dites ? En 1960, donc il y a une cinquantaine d'années.
Et finalement, à cette époque, on avait découvert quoi ?
Et à cette époque, on a découvert plusieurs couches, notamment une qui contient du gaz.
Le gaz de schiste.
Le fameux gaz de schiste.
Donc il y a 60 ans, on découvre l'existence de gaz de schiste dans le sous-sol ardéchois, mais on ne sait pas comment l'exploiter, on ne sait pas comment l'extraire du sol, c'est ça ?
Voilà, on ne sait pas comment l'extraire parce que le problème du schiste et des gaz de schiste, c'est qu'ils se retrouvent répartis de manière très diffuse dans cette roche. On va être obligé donc de forer dans cette roche, faire un forage vertical et ensuite horizontal. On va être obligé de broyer cette roche, on va faire une fracturation hydraulique. On remplit le forage de 95% d'eau, 4% de sable et 1% de produits chimiques. On met le tout en pression, on met 600 bars de pression, et en broyant cette roche, on va interconnecter toutes les petites bulles de gaz. On va ensuite l'extraire et le réinjecter sur le réseau de gaz français.
Et le sol, après, il est devenu quoi ?
Il apprécie moyennement parce qu'on broie les roches, mais surtout on injecte des produits chimiques. Et le problème, c'est que les 50% de ces produits chimiques qui restent dans le sous-sol, on n'arrive pas à les extraire. Et donc 1% de 20 000 m3 d'eau, il faut 20 000 m3 d'eau, c'est-à-dire 6 piscines olympiques pour faire une seule fracturation.
6 piscines olympiques.
6 piscines olympiques pour faire une seule fracturation hydraulique. On laisse donc la moitié de cette eau ou un peu plus au fond du forage. Et cette eau, elle contient donc 1% de produits chimiques, ce qui fait au final en gros 200 tonnes de produits chimiques que l'on laisse dans le sous-sol. Et le problème, c'est que comme la roche est broyée, on risque de retrouver, il y a une très forte probabilité de retrouver ces produits chimiques dans les aquifères, c'est-à-dire les nappes phréatiques que l'on pompe, que l'on a au final dans nos robinets.
Gasland.
Do you want me to go through all of them, sir?
2010.
Alors, vous souhaitez que je lise tous?
Mike John, représentant de Chesapeake Energy.
Pour commencer, on a de l'acide chlorhydrique qui dissout certaines boues présentes dans les puits.
We would have a need for a breaker that would take away some of the viscosity from our fluid that we would.
Il y a aussi un agent antibactérien, l'aldéhyde glutarique, pour diminuer la viscosité des liquides. On utilise le persulfate d'ammonium. On utilise un inhibiteur de corrosion pour protéger les colonnes de tubage et les gazoducs.
Testing my site here, it's dimethyl formaldehyde.
C'est du formaldéhyde de diméthyle. Comme agent de réticulation, on utilise du sel de bord. Comme réducteur de friction, un distillat de pétrole. Un agent de neutralisation, l'acide citrique. Le chlorure de potassium en guise d'absorbeur d'oxygène.
Fabrice Nicolino, comment tout cela a commencé Et d'où ça vient? Et j'ai l'impression que ça commence aux États-Unis.
Ah, ça c'est sûr, ça commence aux États-Unis. Parce que c'est vrai que le point de départ se trouve là-bas. L'épicentre de cette affaire, qui est une affaire mondiale, c'est Dallas aux États-Unis. C'est le Texas.